Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Alors que plusieurs voix de l'opposition à droite demandent la démission du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, Édouard Philippe annonce deux missions sur la détection d'éventuels risques de radicalisation d'agents chargés de la lutte antiterroriste. Alors que le procureur national antiterroriste a confirmé hier que l'employé de la préfecture de police à Paris, qui a tué quatre de ses collègues jeudi, s'était bien radicalisé ces dernières années. Des élections législatives au Kosovo aujourd'hui, alors que le pays est toujours exsangue et que sa légitimité internationale est toujours remise en cause depuis son indépendance en 2008. Reportage de Louis Cellier dans ce journal. Et puis une manifestation qui a réuni des centaines de militants écologistes hier à Paris pour dénoncer la construction du parc de loisirs Europa City. Reportage à suivre. Mais on commence avec le retour de la manif pour tous dans les rues, aujourd'hui à Paris. 7 ans après les manifestations contre le mariage pour tous qui avaient réuni des centaines de milliers de personnes, un collectif d'associations appelle à défiler contre le projet de loi bioéthique examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. En particulier l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Plus de 3 millions de tracts ont été distribués, plus d'une centaine de cars complets ainsi que 2 TGV affrétés. 1500 personnes devraient venir de Lyon, notamment Mathilde Imberti.
Anaïs monte à Paris aujourd'hui avec son mari et son enfant. La suite logique d'une mobilisation démarrée contre le mariage pour tous.
Effectivement, c'est ce qu'on disait déjà à l'époque, que forcément le mariage pour tous, en fait, ça allait plutôt entraîner des problèmes sur la filiation. Et donc là, on est sur la PMA pour toutes, mais on est bientôt après sur la GPA, on est sur cette marchandisation. On ne peut pas tout se permettre avec l'homme.
À l'association Cosette et Gavroche, on dit un enfant a besoin d'une mère et d'un père. On l'écrit aussi sur des affiches qui ont fleuri dans tout Lyon. Docteur Raphaël Nogier, leur président.
C'est une catastrophe. Parce qu'on va supprimer à l'enfant le rôle paternel. Je compare souvent le père à un phare. Et ça, une femme ne remplacera jamais le rôle de phare qu'un père peut avoir.
Parmi les opposants lyonnais, Aude Mirkovic, association juriste pour l'enfance, elle a été auditionnée à ce titre en commission à l'Assemblée.
Ces enfants qui vont être privés par la loi de père, dans une vingtaine d'années, demanderont des comptes. Et à ce moment-là, il y a des responsabilités qui seront engagées, à commencer par celle de la France. Parce que la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention européenne des droits de l'homme et le projet de priver délibérément un enfant de son père par la loi méconnaît ces deux textes.
Les manifestants espèrent faire basculer députés et sénateurs qui auront le dernier mot.
Départ du cortège aujourd'hui à 13h depuis le 6e arrondissement de Paris. La réponse du Premier ministre après l'attaque de la préfecture de police jeudi. Les agents des services de renseignement vont faire l'objet d'une réévaluation en profondeur. Voilà ce qu'annonce Édouard Philippe dans un entretien publié ce matin dans le journal du dimanche. Après l'attaque au couteau qui a fait 4 morts avant que le tueur ne soit abattu. Édouard Philippe souhaite resserrer les mailles du filet. Il va lancer 2 missions pour détecter les signes de radicalisation. Des missions confiées à l'inspection générale du renseignement. Alexandre Frémont.
La première mission concerne les outils et les procédures mises en place pour détecter les signes de radicalisation au sein du service informatique, celui-là même où travaillait l'assaillant Michael H. Sont-ils bien mis en œuvre, performants, respectés? C'est tout ça qui va occuper les agents de l'inspection générale du renseignement ces prochains jours. Les premiers résultats sont attendus pour la fin octobre. La deuxième mission concerne cette fois-ci tous les services de renseignement de la préfecture liés aux risques antiterroristes. Les cas des agents qui auraient pu poser problème ont-ils été traités? Faut-il réévaluer d'autres cas qui pourraient être alarmants? Les résultats là sont attendus pour la fin de l'année. Le Premier ministre enfin réitère sa confiance en son ministre de l'Intérieur, critiqué par la droite qui demande sa démission. J'ai toute confiance en Christophe Castaner qui a fait état de ce qu'il savait au moment où il s'est exprimé, dit Édouard Philippe. Christophe Castaner qui, on le rappelle, avait dit le jour de l'agression que l'assaillant n'avait jamais présenté de difficultés comportementales ni le moindre signe d'alerte.
Édouard Philippe vole aussi au secours de son ministre de l'Intérieur. Dans les colonnes du JDD toujours. « J'ai toute confiance en lui », déclare le Premier ministre. Après les critiques de l'opposition, des députés de droite réclament l'ouverture d'une enquête parlementaire. Christophe Castaner a parlé trop vite, selon eux, en sous-entendant que la thèse d'un déséquilibré était privilégiée. Marine Le Pen dénonce ce qu'elle qualifie déjà de scandale d'État. Elle demande, elle aussi, la démission de Christophe Castaner. C'est la position également des députés de droite Guillaume Larrivé ou encore Éric Ciotti. Pour David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de police, il faut d'abord établir clairement les failles du système.
La radicalisation en France, ça n'est pas une infraction, c'est la liberté d'opinion. Le problème, c'est que ça commence à en être un quand on est effectivement employé dans un service de renseignement et que dans ces services-là, on est censé détecter ce type de processus et que là, visiblement, ça ne l'a pas été. Là, c'est la vraie question. Est-ce qu'il y a eu des signaux faibles? Est-ce qu'il y a eu des signaux forts? C'est toutes les questions qui se posent. Qui aurait dû faire que ce monsieur fasse l'objet d'une enquête approfondie. Et là, on se serait peut-être rendu compte qu'il n'avait plus sa place dans ce service. Pour le moment, il s'agit de savoir s'il y a eu des fautes dans le service de police avant de demander une démission d'un ministre. Et les fautes, elles sont simples. Soit des gens ont su et ont vu des choses et l'ont fait savoir. Et dans la police, quand on fait savoir des choses, il faut l'écrire. Si des gens ont vu et su des choses et qu'ils n'ont rien écrit, la responsabilité est immense pour ceux qui n'ont rien fait. Dans la police, on ne peut agir que si on laisse des écrits. Et ça, c'est cette responsabilité-là qu'il faut établir et ensuite on verra après.
David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de police. Il répondait à Catherine Potier. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir en Tunisie aujourd'hui pour les élections législatives. Une semaine avant le second tour de l'élection présidentielle, cette élection risque d'afficher un record d'abstention. Elle est pourtant cruciale. Le Parlement a plus de pouvoir que le président de la République depuis la révolution de 2011. Au Portugal aussi, le scrutin législatif se tient aujourd'hui. C'est le Premier ministre Antonio Costa qui est donné favori. Au Kosovo également, près de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leurs 120 députés, 2 ans seulement après les dernières élections législatives. Ces élections s'annoncent indécises et ouvertes dans un pays qui est toujours le plus jeune pays du continent, avec une moyenne d'âge de 29 ans parmi la population. Beaucoup aimeraient qu'elle amène du changement 20 ans après la guerre et dans une société minée par la corruption et la pauvreté, Louis Sillier.
Un chômage à plus de 30%, une personne sur 6 sous le seuil de pauvreté, un quart de la population sans accès à l'eau potable. 11 ans après l'indépendance, l'heure n'est plus à la fête au Kosovo. Originaire du sud du pays, Fisnek finit ses études d'art à Pristina.
Il faudrait aller voter pour obtenir ce changement qu'on attend depuis tant d'années. 20 ans qu'il tarde et on a toujours les mêmes qui promettent le changement depuis la fin de la guerre. Et c'est seulement mauvais.
Assise sur un banc pour sa pause déjeuner, Lulieta survit grâce à un maigre salaire de femme de ménage. À 42 ans, elle ne croit plus au changement.
À part ceux qui travaillent pour le gouvernement ou ceux qui ont un business, tout le monde vit dans la misère. Nous, on pense que jamais le Kosovo n'a fonctionné comme un État.
La lutte contre la corruption, tous les partis politiques en ont fait leur principal thème de campagne. Sur l'artère piétonne de la capitale, Mohamed Veliou, 22 ans, veut convaincre les jeunes qu'ils peuvent changer les choses. Il milite pour le parti d'opposition Vendvendossier.
La classe politique qui est au pouvoir depuis 20 ans ne nous a jamais aidés, nous, les jeunes, à obtenir un travail qui correspond à nos études et à pouvoir fonder une famille. La plupart de mes proches, ils ont émigré.
Redonner de l'espoir aux Kosovars ne sera pas chose facile. Ces 5 dernières années, près de 10% de la population a préféré quitter le pays, faute de perspectives.
Louis Sellier au Kosovo pour France Culture. En France, quelques centaines de militants écologistes ont rallié hier Matignon à Paris. Ils étaient partis de Gonesse, dans le Val d'Oise, vendredi pour dénoncer la construction du parc des loisirs Europa City. Un projet situé à 30 minutes au nord de Paris qui doit voir le jour en 2027. Il prévoit des hôtels de luxe, un parc d'attractions et des boutiques qui doivent notamment s'y installer. Mais les militants et élus qui s'étaient rassemblés hier après-midi, place de la Bastille, ont dénoncé eux, ce qu'ils qualifient de scandale et de désastre écologiste. Un reportage d'Adrien Palluet.
Malgré la pluie, près de 500 personnes défilent sous escorte policière. Face à la place de la Bastille, des tables sont dressées. On sert une soupe préparée avec des légumes cultivés sur le site de Gonesse. Cette marche est importante pour Bernard Loup, président du collectif pour le Triangle de Gonesse, car des travaux ont déjà commencé sur le site.
Au mois de juillet, il y a eu le début de travaux pour préparer les réseaux pour l'ouverture du chantier de la gare du Triangle de Gonesse au mois de novembre. Donc pour nous, c'est un véritable passage en force. On ne fait pas une gare quand il n'y a aucun autre permis de construire et qu'on ne sait toujours pas ce qu'on fera sur le Triangle de Gonesse. On ne sait toujours pas si Europa City sera réalisé ou pas.
Alain est militant depuis plusieurs années. Il tient une pancarte.
Terre de Gonesse, des salades, pas du béton.
Pour lui, Europa City serait un danger de plus pour l'environnement et la santé des riverains.
Les enfants à l'école, ils ont déjà Roissy qui passe au-dessus. Ils ont des autoroutes de chaque côté. Comment on va absorber ce CO2 qui est démentiel dans ce secteur? En bétonnant le reste de leur petite terre, ils vont accentuer la pollution.
Des personnalités politiques prennent la parole. Clémentine Autain, Yannick Jadot, mais aussi Delphine Bateau, ancienne ministre de l'écologie et députée des Deux-Sèvres.
Tenez bon.
Elle juge que ce projet va à l'encontre des problématiques écologiques actuelles.
Il est emblématique en fait d'une vision complètement obsolète de ce qu'est le développement d'un territoire et de l'Île-de-France, de la banlieue, alors que le changement climatique s'accélère et qu'on a un effondrement de la biodiversité et qu'on a besoin de reconquérir une souveraineté alimentaire de proximité. Donc c'est une aberration complète.
Le 10 octobre prochain, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, doit remettre un rapport sur le projet au Premier ministre.
Un mot de météo, de la pluie sur le nord et l'est du pays, plus de soleil sur le midi méditerranéen et la Bretagne. Température moyenne comprise aujourd'hui entre 10 et 22 degrés.